guerre entre forces pro-gouvernementales et rebelles de la région du Tigré.
L'Union africaine n'a cessé d'appeler à un cessez-le-feu complet, inclusif, global, immédiat et inconditionnel. Vous pouvez me citer à ce sujet. C'est une priorité absolue depuis le premier jour. Et cela reste une priorité absolue pour la résolution pacifique, la résolution à l'amiable du conflit dans le nord de l'Éthiopie.
Le pays continuait jusque-là à siéger au Conseil de paix et de sécurité de l'organisation, mais n'a toutefois pas été reconduit pour un nouveau mandat, ont indiqué des diplomates.
Merci beaucoup Arzuma, et pour le débat à présent avec nos invités ici à Washington, nous avons Karine Kaneza Nantulia, elle est directrice du plaidoyer à la division Afrique de Human Rights Watch dans l'État américain de Pennsylvanie, Nyaka Lagoke, analyste politique, enseignant d'histoire et études panafricaines à Lincoln University, et à Dakar, Ibrahim Khan, directeur du plaidoyer d'Osiwa, l'Open Society for West Africa, auprès de l'Union africaine. Merci à tous. Alors Karine, pour vous, la question des violations des droits humains dans les conflits qui minent le continent doit être au top de l'agenda pour cette année ou n'importe quelle année de toute façon, mais le sommet du week-end dernier n'a pas pu se prononcer clairement sur la situation au Tigré. Cette question des droits humains est-elle une question qui fâche et qu'on a voulu éviter lors du sommet ou bien?
Ce qui est sûr, c'est que c'est probablement une question qui fait honte, qui devrait faire honte. Vous l'avez bien dit dans le résumé que vous avez présenté, c'est quand même la question du conflit en Éthiopie entre l'armée fédérale et ses alliés et le TPLF, c'est quand même un conflit qui dure depuis 2020, qui a fait un nombre, qui a fait des morts, c'est un pays où il y a un blocus humanitaire effectif. Nous avons le viol comme arme de guerre. Donc c'est quand même un conflit sur lequel nous retrouvons tout un petit peu les symptômes de tout ce qui est violation des droits de l'homme. Est-ce que la question des droits de l'homme devrait être une priorité? Les violations des droits de l'homme touchent de plus en plus au nexus entre la sécurité et la démocratisation et l'agenda démocratique. Donc, non seulement elle devrait faire partie des priorités de l'Union africaine en tant que priorité démocratique, mais aussi en tant qu'outil et stratégie pour justement répondre aux questions de sécurité assez sérieuses auxquelles l'Union fait face.
D'accord. Alors, il n'y a qu'à, que ce soit la crise sur le barrage éthiopien du Nil ou certaines tensions internes, on n'a pas eu droit à des déclarations fortes, mais cela n'a pas été le cas pour les coups d'État, par exemple. Comment est-ce que vous l'interprétez?
Oui, c'est une situation assez complexe, ce que vit l'Afrique et ce que vit l'Union africaine. Pour parler du cas du Mali, parce que c'est de cela qu'il s'agit, je pense qu'on a vu la mobilisation de la CDAO et puis d'une certaine façon de l'Union africaine et surtout de la France contre ce qui se passait au Mali. Et je voudrais préciser qu'au Mali, c'est une révolution populaire qui a amené les militaires au pouvoir. Il ne faudrait pas oublier cela parce que pendant des mois, les Maliens se sont mobilisés face au leadership de Ibrahim Baba Keïta qui a échoué comme leader. Plusieurs espaces du territoire malien étaient occupés. Il y avait une gangrène qui était la corruption. Et donc, le Mali était un pays qui était en faillite. Bon, maintenant, si l'Union africaine elle pouvait se mobiliser autant pour ce qui s'est passé au Tchad et pour ce qui s'est passé en Éthiopie, on pouvait le comprendre. Mais ici, nous sommes en droit de dire qu'il s'agit naturellement d'une position française exprimée aussi par des chefs d'État africains qui ont peur pour eux-mêmes, parce qu'il y a eu aussi le problème de la position, des conditions qui ont été changées en Côte d'Ivoire, en Guinée, et puis même au Mali, c'était aussi, c'est ce qu'ils vraiment voulaient faire. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ce sujet. Il ne faut pas dénoncer les symptômes, il faut essayer de prévenir, et là, on n'a pas vu l'Union africaine faire son travail comme il se doit, ni la CEDEAO, ni la France.
Ibrahim Kan, justement, déclaration forte et consensus sur les coups d'État, mais le statut d'observateur d'Israël, certains conflits comme le Tigré ou les violations des droits humains, c'est presque le statu quo. Hein. L'Union africaine ne donne-t-elle pas un peu des arguments à ses détracteurs?
Oui, mais vous savez que les situations sont aussi complexes que différentes. Si vous prenez le cas de la question du statut d'observateur, ce n'est pas une question très difficile à résoudre. On a voulu prendre cette question comme étant une question simplement administrative, alors que c'est une question hautement politique. Accepter Israël alors que la lutte du peuple palestinien a toujours été au cœur de l'action de l'Union africaine, ça mérite une attention particulière de la part de la Commission de l'Union avant de prendre une décision qui peut avoir un certain nombre de conséquences. Et donc, le fait de repousser la discussion à la prochaine session, je pense que c'était juste factuel, parce que le président en exercice était appelé à s'occuper d'autres choses pendant le deuxième jour de la rencontre, et c'est pourquoi on n'a pas pu traiter l'affaire de fond en comble. Mais je suis persuadé qu'on le traitera de manière adéquate la prochaine fois, et à ce moment-là, les esprits seront un tout petit peu apaisés, parce que ici, c'était vraiment deux idées différentes de l'Union africaine qui s'opposait, une qui met l'accent sur la lutte de libération et une autre qui veut que l'on dépasse la question de la lutte de libération pour penser à autre chose. Alors, cette ligne de fracture que je viens de décrire, elle est existante au niveau de l'Union africaine. Et je pense que tant que les problèmes que nous aurons à régler seront des problèmes politiques fondamentaux, on retrouvera ce type de ligne de fracture. Et donc, ce qui m'amène à dire que un des problèmes de l'Union, c'est pas seulement la gestion, mais c'est de s'entendre sur la direction à prendre. S'entendre sur la direction à prendre et comment aller dans une certaine direction en prenant en charge les problèmes africains.
D'accord. Alors, Karine, l'une des raisons qui exacerbe ce sentiment des deux poids, deux mesures, c'est un peu le silence des institutions comme l'Union africaine lorsqu'il y a des changements constitutionnels à l'approche des élections. Il n'y a qu'à en faire référence un peu plus tôt. Alors, comment l'Union africaine et les institutions régionales doivent-elles s'y prendre?
Je pense qu'elles devraient s'y prendre plus tôt. N'est-ce pas? En fait, il y a trois choses sur lesquelles on devrait, à mon avis, on devrait se focaliser. La première, c'est que d'abord, reconnaître que l'Union africaine a des conventions, a des textes, a des standards réglementaires assez importants. Des outils que l'Union a développés depuis une vingtaine d'années. Nous avons un acte constitutif, nous avons la Convention de Lomé, nous avons le cadre de Ezulwini. Nous avons des textes qui réglementent certaines de ces crises. Mais il y a aussi un vide. Il y a un vide au niveau des textes par rapport sur la question justement de la légitimité de la crédibilité des élections. Et ça, c'est une question qui est de plus en plus urgente. Ça, c'est la première chose. Donc, réagir de façon proactive avant, mais aussi avoir des textes et combler ce vide entre les conventions qui existent, par exemple la charte sur la démocratie, la gouvernance et les élections, à prévoir des mesures punitives. Et ça, cela demande un certain leadership, une certaine volonté politique que je pense mon frère Ibrahima a mentionné. S'entendre sur la direction, mais c'est aussi s'entendre sur les actes les pactes sur lesquels l'Union africaine, les États membres vont être d'accord, en fait.
Justement.
Par exemple, avoir justement un membre du Conseil de paix et sécurité dans lequel sévit, par exemple, qui gouverne un pays où justement il y a une crise des droits de l'homme profonde, mais qui quand même va faire partie du Conseil de paix et sécurité. Donc la question de l'éthique, la question du leadership avec des principes, en fait, qui gère ces actes.
Oui, Karine, justement, je voulais aller un peu vers Niaka. Quand Karine parle de charte, est-ce qu'on peut parler vraiment de charte unique pour les 54 pays en ce moment, lorsque les réalités, les histoires politiques des pays ne sont pas les mêmes? Sur quoi est-ce qu'il faut se mettre d'accord?
Bon, ce serait peut-être difficile d'appliquer une charte unique, mais je crois qu'elle a quand même un point.
En principe, elle est unique, mais...
Oui, je veux dire qu'elle a un point. De toute façon, pour moi, je vais aller au-delà de la charte. Je vais parler de la question du leadership. Et donc, s'il y a des documents qui manquent, il faudrait que, voilà, ce qu'on veut appliquer au Mali, à ce que cela soit applicable aussi à d'autres pays, ou encore, si un président africain dit que, en fait, si une constitution d'un pays dit qu'il faut deux mandats et qu'après les deux mandats, un président change la constitution et qu'il y a eu des violations des droits de l'homme, comme cela s'est passé dans certains pays africains, comme en Côte d'Ivoire et comme en Guinée, on n'a pas vu l'Union africaine. Donc quand on vient maintenant pour aller dénoncer le coup d'État ou encore les révolutions populaires, parce que la réalité, et c'est ce que j'ai failli dire, c'est ce que j'ai failli oublier, nous sommes dans un contexte de renouveau du panafricanisme. Il y a un réveil qui a commencé depuis la Côte d'Ivoire avec la mobilisation des Africains par rapport au procès de Gbagbo. On a vu les mobilisations des gens au Sénégal, c'est ce qui a mené Macky Sall au pouvoir. On a vu la même chose au Burkina Faso, Blaise Compaoré est parti. Et on voit la même chose aujourd'hui avec le Mali qui parle de la CEDEAO des peuples, comme on peut naturellement parler de l'Union des peuples africains. Donc aujourd'hui, quand les leaders qui sont au pouvoir n'arrivent pas à comprendre tous ces processus révolutionnaires et qu'on veut se focaliser sur l'arrivée au pouvoir des militaires, qui est une conséquence dans certains pays comme au Mali d'un processus révolutionnaire, alors que l'Union africaine a failli quand les gens changeaient les constitutions, voici autant de questions que nous devons poser. D'accord. Et c'est par rapport à cela que nous intervenons. Oui.
Alors Ibrahim, justement, l'Union africaine qui suspend des pays, mais cela ne semble pas dissuader certains dans d'autres pays. On a vu la tentative récente de coup d'État en Guinée-Bissau le 1er février. Alors en dehors des suspensions et des sanctions, comment l'Union africaine peut-elle aider à garantir la stabilité politique et institutionnelle sur le continent?
Je pense que c'est par le leadership. C'est par le leadership qu'on peut arriver à faire cela. Et j'aimerais à cet égard parler de l'expérience de l'Afrique de l'Ouest dans ce domaine. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu des événements autrement plus compliqués que celles qu'on nous connaît actuellement dans la sous-région, il y avait eu une guerre civile au Libéria, il y avait eu une guerre civile en Sierra Leone. C'est le leadership du Nigeria à l'époque qui a permis d'en faire une affaire sous-régionale, géré par la sous-région, sans demander à qui que ce soit de l'aide et de gérer le dossier jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire le retour à des régimes constitutionnels dans les deux pays. Et cela s'était fait avec le soutien de l'Union africaine, mais grâce à la CEDEAO. Mais ce leadership-là n'existe plus sur le continent. Il manque et ça se voit pratiquement dans la gestion de la crise actuelle au niveau du Sahel.
D'accord, on va aller rapidement au break, mais avant cela, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Christian Dierabé à N'Djamena nous dit « L'Union africaine a perdu sa crédibilité. Elle légitime un coup d'État dans un pays et condamne un coup d'État ailleurs. C'est une injustice. » Arona Balde à Dakar nous dit « À mon avis, le président Macky Sall a du pain sur la planche. Une Afrique de l'Ouest l'Ouest marquée par des coups d'État militaires et une Afrique de l'Est instable, la pandémie de Covid-19, les défis alimentaires et climatiques, les attentes sont nombreuses. L'UA doit définir un nouveau paradigme en commençant par lutter contre les coups d'État constitutionnels et la dictature. Et puis, Excellence Kaba à Conakry écrit, l'Union africaine ne va pas dans la direction des pères fondateurs de l'OUA. C'est pourquoi elle souffre aujourd'hui dans son fonctionnement. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Vous, le public, vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités ici à Washington, Karine Kaneza Nantulia, directrice du plaidoyer à la division Afrique de Human Rights Watch, en Pennsylvanie, Nyaka Lagoke, analyste politique et enseignant d'histoire et d'études panafricaines à Lincoln University, et puis à Dakar, Ibrahim Khan, directeur du plaidoyer d'Ossiwa auprès de l'Union africaine. Alors Karine, l'objectif premier de l'Union africaine, c'est l'intégration. Cette intégration doit-elle d'abord passer par l'intégration économique avec la mise en place de la ZLECAF?
Je pense qu'une priorité serait d'abord d'avoir une intégration humaine. Nous parlons de libre circulation
des biens et des personnes.
C'est d'abord des personnes. Et nous sommes quand même dans une situation, dans un contexte dans lequel nous avons par exemple des réfugiés burundais qui se font rapatrier par force par des gouvernements régionaux. Nous avons des réfugiés congolais qui se font refouler justement par d'autres gouvernements. Donc, a priori, il faudrait d'abord régler cette question, justement, harmoniser nos lois nationales et régionales au niveau, par exemple, des demandeurs d'asile, au niveau de la citoyenneté, au niveau de la circulation, de la sécurité des réfugiés. Et cela pourra renforcer, justement, tout ce qui est avancement, progrès économique.
D'accord. Alors, Nyaka, l'intégration économique est-elle possible sans une stabilité politique sur le continent?
Non, bien sûr que non. S'il n'y a pas de stabilité, on ne peut pas avoir d'intégration économique, il ne peut pas avoir de développement. Moi, ce que je pense que nos leaders devaient faire, il faut reconnaître qu'il y a une certaine forme de résurrection du panafricanisme. L'Afrique doit défendre sa souveraineté, sa dignité. C'est le temps de revisiter Kwame Nkrumah, Modibo Keïta dans le cas du Mali, bien des leaders comme les Patrice Lumumba. Quand l'Union africaine aura compris qu'il faut défendre l'idéal du panafricanisme, la question de la souveraineté politique et économique de l'Afrique, c'est ainsi que le cadre peut être mis sur pied pour penser à une certaine forme de stabilité et qui pourrait être un espace pour un développement intégré du continent africain.
Ibrahim, la ZLECAF tarde à prendre son envol et cela pourrait prendre des années malgré son entrée en vigueur il y a un an. Comment est-ce qu'on peut éviter que les urgences politiques nous plombent cet outil d'intégration?
Mais en prenant le temps de bien préparer la mise en œuvre de ce texte fondamental parce qu'il crée un marché continental, et c'est ce marché continental qui peut nous aider à vraiment faire des avancées dans le domaine économique et social sur notre continent. Vous savez, le texte initial a été adopté et est entré en vigueur, mais il y a énormément d'autres textes annexes qui sont plus importants que le texte originel et qui doivent être négociés et qui doivent être adoptés. Par exemple, on va intégrer, on va adopter un système de e-commerce, alors que le e-commerce permet de produire des données. Et on est sur un continent où nos données ne sont pas encore protégées, où les données à l'intérieur des États sont laissées à la gestion des compagnies étrangères. Donc, vous voyez qu'il nous faut gérer, et ce à quoi s'emploie actuellement l'Union africaine, mettre en place des autres traités qui vont compléter le texte et permettre aussi, lors des négociations avec les entités extérieures, comme vous savez que la semaine prochaine, l'UA et l'UE vont se rencontrer pour une réunion, leur réunion biennale, et cette réunion-là doit aussi jeter les ponts des accords commerciaux que l'Union africaine
mais doit adopter. Ces accords commerciaux, les CAF, est-ce qu'elles ne doivent pas être précédées par cette Union africaine des peuples? Karine parlait un peu des obstacles à la libre circulation des personnes aussi dans certaines régions.
Mais vous savez, l'Union africaine s'est dotée d'un agenda qu'on appelle l'agenda 2033. Il y a à l'intérieur un programme décennal qui inclut l'adoption de l'ECAF, l'adoption d'un traité sur la libre circulation, l'adoption d'un passeport panafricain et autres. Et on est justement à la mise en œuvre de tous ces textes qui ont été adoptés, on est en train de les mettre en œuvre. Tout à l'heure, quelqu'un a évoqué une question qui me paraît fondamentale, qui doit accompagner tout ça, c'est révisiter le concept, l'idée de panafricanisme. Le panafricanisme le panafricanisme de Nkrumah, le panafricanisme de Cheikh Anta Diop n'est pas le panafricanisme du 21e siècle. D'abord, la majorité de la population africaine, 70% de la population africaine a moins de 35 ans, il faut lui donner les moyens, il faut lui faire repenser le panafricanisme qu'il pourra utiliser pour vraiment aller dans la direction de l'intégration. Ce n'est pas les mêmes problèmes que ces jeunes-là rencontrent.
Justement,
qui était à l'origine de la création du panafricanisme en 1963 avec la création de l'organisation de l'Union africaine.
Nyaka, on a vu Paul Kagame brandir le fameux passeport africain. Depuis lors, ça ne semble plus bouger, justement.
Oui, Karine en a parlé, c'est vrai, il y a des difficultés, mais moi je pense que ça va venir déjà au niveau de la CEDEAO. Nous avons déjà ce passeport, et voilà, 16 pays africains, voilà, quand moi je quitte les États-Unis, comme j'ai toujours mon passeport ivoirien, quand je voyage, je n'ai pas besoin d'un visa pour les pays africains. C'est déjà une avancée, et je pense que tôt ou tard on va y arriver. Mais, comme Ibrahim l'a dit, et comme je l'avais dit un peu plus tôt, la marche de l'Afrique, c'est son unité, la marche vers son unité, et il est temps de repenser le panafricanisme, il est temps de comprendre que tous ces mouvements entrent dans le cadre de l'aspiration des peuples africains à marcher vers leur unité. C'est autour de cela qu'on peut réfléchir à tous les autres problèmes. Si on ne le fait pas, c'est qu'on se sera trompé.
D'accord.
Merci pour l'opportunité.
Voilà, merci. C'est la fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.